En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Avant de passer à la prédication de ce matin, nous allons chanter un dernier chant, le 94, Le peuple qui marchait. Si vous voulez trouver dans votre petit document la troisième lecture, donc Luc chapitre 2, et nous allons nous concentrer sur la dernière partie. Si vous regardez très attentivement, vous allez voir qu'il y a des petits chiffres à côté de certaines phrases. Donc, c'est des chiffres qui numérotent les versets bibliques, les phrases. Et donc, le message de ce matin concerne surtout les versets 10 et suivants, qui commencent avec « Mais l'ange leur dit ». Vers la Deuxième Guerre mondiale, un professeur de l'université d'Oxford en Angleterre, il allait devenir plus tard aussi professeur de Cambridge, athée fervent, est venu petit à petit, à travers beaucoup de conversations, de lectures et de réflexions, il dit, malgré lui, il est venu petit à petit à être convaincu que ce monde n'est pas le fruit d'un hasard, mais d'un Dieu personnel qui a tout fait. Et avec un peu plus de temps, un jour, selon sa manière de le décrire, il s'est incliné dans sa chambre et il s'est converti à Jésus-Christ. Il dit qu'il était le converti le plus récalcitrant d'Angleterre. Il est devenu renommé. Après, il a écrit beaucoup de livres parlant de la foi chrétienne. Vous le connaissez probablement parce que vous avez regardé les films de Narnia. Alors, c'est lui, C.S. Lewis, l'auteur de ces livres de Narnia, livres pour les enfants. Mais il a écrit à un moment donné son autobiographie et il l'a intitulée Surpris par la joie. Surpris par la joie. J'ai trouvé le titre très, très intéressant. Il montre que la dernière chose qu'il pensait qu'il allait trouver dans la religion, le christianisme n'est pas exactement une religion, mais c'était la joie. Et il était surpris par la joie qu'il a trouvée dans la foi chrétienne. Je pense que c'est un bon titre pour ce qui arrive ce jour-là. Parce que si vous lisez avec moi au verset 10, on va remonter au verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc autour de la région de Jérusalem, beaucoup de bergers parce qu'il y a des sacrifices qui s'effectuent au temple. Il faut des agneaux. Il faut savoir, à l'époque, les historiens nous disent que les bergers étaient un peu comme les vendeurs de voitures d'occasion d'aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'ils avaient une réputation tellement mauvaise d'être des gens malhonnêtes que les bergers ne pouvaient pas témoigner dans un procès en Israël dans l'Antiquité. Donc, les voilà, ces gens... des gens simples, plutôt pauvres probablement, et je ne sais pas pourquoi ils ont cette réputation de malhonnêteté. Mais ils passaient leur nuit pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, » c'est un nom pour un titre pour la ville de Bethléem, parce que c'était la ville d'origine du roi David, « dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le mot signifie « Messie », le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, une multitude d'anges qui louaient Dieu, qui disaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts, dans la sphère transcendante de Dieu, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Si j'avais inclus tout le texte, vous auriez vu que les bergers vont aller justement en hâte se rendre à Bethléem pour trouver cet enfant emmailloté bizarrement dans une crèche, dans un endroit où normalement c'est les animaux. Ils le trouvent et ils racontent à ses parents, à Marie et Joseph, ce que les anges avaient dit. Le texte nous dit qu'ils reviennent chez eux dans les champs, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Ils sont surpris par la joie ce jour-là, ces bergers. Et nous sommes toujours pris par surprise lorsque Dieu rencontre les âmes. Il vient toujours de sa manière. Ce n'est jamais prévisible, nous ne pouvons pas nous y préparer, et ce n'est pas simplement quand il vient qui nous surprend, mais comment il vient. Et nous allons le voir ce jour-là, ça renverse tout ce que nous avons pensé. Sur Dieu, sur nous-mêmes, sur notre relation avec Dieu. Et la joie vient quand Dieu, votre Dieu, perce dans votre existence, il vous bouscule et il vous appelle à être aimé, à être sauvé, à être pardonné, à rentrer dans cette relation avec lui que vous avez peut-être comme moi longtemps négligé ou même refusé de croire. Et voilà ce qui arrive un peu à ce berger ce jour-là. Mais ce que nous allons faire rapidement, nous allons poser 4 questions à ce texte biblique pour essayer de comprendre un peu mieux cette joie immense qui arrive ce jour-là. Première question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Deuxième question, qu'est-ce qui semblait se passer en apparence? Troisième question, pourquoi un décalage tellement grand entre ce qui s'est passé et ce qui semblait se passer? Et je vous dirai la quatrième question tout à l'heure. Ok, première question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là, il y a à peu près 2000 ans? D'abord, je vous dirai juste que c'est quelque chose qui a divisé carrément l'histoire humaine en deux. Vous savez qu'il y a un avant et un après. Et l'avant et après, c'est marqué par la venue de Jésus-Christ. Vous savez que même un athée, quand il écrit une lettre, il est obligé de reconnaître la grandeur de Jésus-Christ parce qu'il va mettre 2019 ans après la naissance de Jésus-Christ. Et vous tous, vous reconnaissez, que vous le vouliez ou non, que franchement, la venue de Jésus-Christ a bouleversé l'histoire humaine. Mais maintenant, on vient plus près du texte. La première chose que nous voyons donc dans le verset 10, c'est que ce qui s'est réellement passé, c'est que les anges ont annoncé une bonne nouvelle d'une grande joie. Maintenant, la joie, c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Mais la joie ne vient pas de manière arbitraire. On nous dit aujourd'hui que tout vient de dedans, de plus en plus. C'est en toi. Il n'y a rien de plus faux. La joie vient d'une situation concrète et réelle qui vous amène dans un contexte, dans un cadre, dans une situation de sécurité, de bien-être ou d'amour. Voilà. Quand vous lui demandez la main en mariage et elle dit oui, vous avez la joie. Mais la joie n'est pas venue de dedans. La joie est venue de dehors, de ce mot oui, de cette acceptation. Donc, la joie vient de quelque chose qui est joyeuse. Et ensuite, nous voyons que l'ange lui dit une grande joie qui sera pour tout le peuple. Alors, voilà quelque chose qui est fondamental à l'Évangile. C'est un événement, et ceci est important pour vous de comprendre, c'est un événement qui est tellement fondamental que ça peut apporter de la joie à tout le peuple. Vous savez qu'un oui de la part d'une femme, ça me concerne, peut-être ma femme me dit oui pour le mariage, mais ça ne vous apporte pas la joie parce que ça ne vous concerne pas. Il y a des événements joyeux qui sont individuels, qui sont limités, qui concernent une personne qui ne serait pas joyeux pour une autre personne. Mais l'Évangile, puisque ça vient de l'ultime, de Dieu lui-même, de notre Créateur, il fait quelque chose dans l'histoire qui est capable d'apporter la joie à tous. Je dis capable. Beaucoup n'acceptent pas cet événement. Mais Dieu fait quelque chose, a fait quelque chose dans l'histoire qui est capable de vous toucher, quel que soit votre tempérament, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre situation individuelle. Parce que ce qu'il fait en envoyant le Christ dépasse tout cela et va jusqu'au fond de votre existence. Ensuite, il dit aujourd'hui dans le verset 11, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Remarquez très bien les amis, que l'ange n'a pas dit, il vous a envoyé une religion. Le christianisme, et les gens ne le comprennent pas en pays catholique, je parle en tant qu'ancien catholique, Dieu ne nous a pas donné, dans la foi chrétienne, des choses à faire, simplement. Je suis d'accord, il y a une éthique chrétienne, mais l'évangile, la bonne nouvelle, n'est pas que Dieu soit venu vers vous pour dire vous devez faire ceci et cela et cela. C'est pas du tout ce qui arrive ce jour-là, en tout cas, si je reste près de l'Écriture. Une grande joie parce qu'il vous est né, pas une religion, mais une personne, un sauveur qui vient faire pour vous, pas vous qui faites. Mais lui qui fait pour vous ce que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est l'évangile. L'évangile nous parle d'une personne vivante, Dieu le Fils, qui se fait homme. Maintenant, le texte nous dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Le Christ, c'est quoi? Le Christ, c'est le mot grec pour Messie. Et ce mot signifie tout simplement celui qui a été roi. Alors, roi. On n'utilise pas beaucoup ce mot aujourd'hui. C'est le verbe qui correspond au mot onction. Et ça veut dire tout simplement que dans la culture d'Israël, quand un roi était légitimement mis en place, cela était signifié par l'onction. C'est un rite d'onction. Et quand on dit « il vous est né un sauveur qui le Christ », ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'auto-proclame Messie, c'est celui qui a été roi, qui a été que Dieu lui-même envoie. Et ensuite, le texte nous dit « il est le Christ, le Seigneur ». Alors le mot « Seigneur », excusez-moi, dernière fois que je vais dire ça en grec, c'est le mot « kurios ». Le mot « kurios » est toujours utilisé dans le Nouveau Testament, dans des contextes comme ça, pour signifier Dieu. Ce bébé est le Messie envoyé par Dieu, qui est lui-même le Créateur. Parce que la Bible enseigne que le Dieu qui est là et qui nous regarde ce matin, qui n'a pas de commencement et pas de fin, qu'il vous sonde en ce moment, il est un seul Dieu. Un seul être, mais il existe depuis toujours en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de vous en parler ce matin, mais c'est Dieu le Fils qui se fait homme. Alors, vous pouvez voir le même mot « kurios », « Seigneur » dans le texte. Par exemple, dans le verset 9, nous voyons qu'un ange du Seigneur, du « kurios », leur apparut, et la gloire du Seigneur, du Kurios, resplendit. Et donc, il vous est né un sauveur qui est le Kurios. Donc, ce bébé est bizarrement, pour nous, paradoxalement, le Dieu de l'univers. Et c'est là que nous devons faire face à quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas prévisible, que nous ne pourrions pas comprendre par nos observations empiriques ou par nos déductions rationnelles. Et nous allons essayer de comprendre ça. Mais la dernière chose que le texte nous dit au sujet de cette joie, Dieu lui-même vous envoie, il vous est né, dit le texte, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. La dernière chose, c'est que simplement, si c'est Dieu qui se fait homme, ça veut dire que Dieu envahit votre humanité. Et nous voulons comprendre, il se joint à nous, il devient un des nôtres. Et je dirais que ça va encore plus loin que cela, mais je le dirai tout à l'heure. Soudain, dit le texte au verset 13, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, beaucoup d'anges, qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très, très, très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Vous pouvez imaginer les bergers qui n'ont jamais vu d'ange, parce qu'il est très rare dans l'histoire humaine, selon la Bible, que les anges sont permis de pénétrer dans le contact avec les humains. Il y a un monde invisible, il y a un monde spirituel, il y a un monde surnaturel, mais ce monde est très rarement en contact, pour le moment, avec le nôtre. Mais ici, en ce jour-là, soudainement, rang sur rang, myriade sur myriade des êtres célestes glorieux, resplendissants, et les bergers sont stupéfait non seulement par la vue, mais par ce sentiment qu'il y a la présence de quelque chose qui est transcendant, qui est qui est autre, qui est glorieux, qui nous dépasse, qui nous cause à la fois la peur, le tremblement et l'attirance, qui est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Voilà, nous avons fini le premier point qui est de loin le plus long. Le deuxième point, on a parlé de ce qui s'est réellement passé, mais qu'est-ce qui a semblé se passer en apparence? Nous voyons dans les versets 4 à 7, un peu plus haut, Joseph monta de la Galilée, de la ville Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville David. Verset 6, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Si on était là et on avait pu utiliser toutes nos capacités, la vue, l'ouïe, le toucher, la raison, la déduction, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui se passe tout le temps sur un plan. On voit un petit bébé qui est né avec un élément bizarre. Comme il y a trop de monde à Bethléem, parce que c'est le temps de la fête, il n'y a pas de place pour cet enfant dans l'hôtellerie et cet enfant est posé dans une étable. Mais en soi, c'est banal. C'est ordinaire. C'est un petit enfant qui est faible, qui est un bébé, comme tous les autres bébés. C'est ce que nous voyons. Ça nous amène au troisième point. Je vous ai dit que le deuxième était court. Pourquoi un décalage, un tel décalage incroyable entre la réalité de ce qui s'est passé ce jour et ce que les apparences. Si Dieu est là, chers amis, et s'il va se révéler, qu'il le fasse en puissance et gloire. Je parle comme un fou. C'est comme l'athée qui a dit un jour, en parlant, c'est une vraie histoire, dans un débat public, si Dieu existe, alors qu'il me frappe d'un éclair et qu'il me tue tout de suite. Voilà qu'il n'existe pas. Comme si Dieu est obligé d'agir selon mes pensées bizarres. Comme si moi je peux établir le cadre et la manière dans laquelle le Dieu vivant se révèle aux hommes. N'importe quoi. Mais pourquoi quand même un tel décalage entre ce qui se passe et ce qui semble se passer? La réponse est assez simple. Pour sauver quelqu'un qui se noie, puisqu'il est venu comme sauveur, Dieu, pour sauver quelqu'un qui se noie, il faut se mouiller. Vous ne pouvez pas sauver cet homme qui coule, qui se noie, sans vous-même le rejoindre, là où il est dans sa situation. Sauver, ça signifie une certaine identification, une certaine union. On doit se joindre avec la personne. Alors, si vous voulez sauver quelqu'un qui coule de dette, vous ne pouvez pas le faire, à moins de le joindre dans cette expérience de perdre de l'argent. Parce que pour le sauver, vous devez perdre de l'argent et vous retrouver un peu dans sa situation, n'est-ce pas? C'est pour cela que, à la fin de votre document, j'ai mis quelques versets de plus, tout fin de votre document. En dessous de la ligne, vous voyez trois versets bibliques. Dans le deuxième, et un verset biblique, dans 2 Corinthiens 8, 9, je vous le lis, en parlant de Jésus, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous comprenez l'image? De riche qu'il était en gloire divine, il se fait pauvre et devient homme, tout en restant Dieu, mais il n'utilise pas ses pouvoirs divins. Il se fait pauvre afin de vous enrichir, afin que vous ayez le pardon et la réconciliation avec Dieu. Maintenant, pensez avec moi juste pour un moment. Dieu s'abaisse, le Dieu créateur s'abaisse, il prend le rang d'un serviteur, il prend une vraie âme humaine, un vrai corps humain, et il vit une vraie vie humaine, c'est-à-dire il est obligé de vivre depuis la conception, le stade de bébé, jusqu'à l'homme adulte. Il traverse tout ce que vous avez traversé. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'envahir votre humanité, votre situation. Il est en train de prendre sur vous, vos dettes. Tout ce que vous deviez à Dieu, tout ce que vous avez refusé, tout ce que vous avez négligé, ce script divin et merveilleux pour votre vie que vous avez fait fi, vous n'avez même pas intéressé. Vous avez écrit votre propre script comme si vous êtes Dieu. Moi aussi. Nous tous. Voilà. C'est pas nécessaire de voler ou tuer pour être ce qu'on appelle pécheur. Nous sommes tous comme cela. Nous nous détournons d'un Dieu bon et présent pour vivre comme nous le voulons. Et pour nous sauver de tout cela, Christ vient, il l'envahit, il devient le répondant, il répond à ta place à Dieu pour tout ce que vous auriez dû être et vous n'avez pas été. Et tout ce que vous auriez dû souffrir comme peine, pénalité, il le prend sur lui-même. Parce que vous voyez que l'ange lui dit, il vous est né un sauveur, mais il n'est pas encore sauveur. Ben, il est sauveur, mais il ne sauve pas encore, pas dans cette crèche. S'il va sauver, il faut que la crèche amène à une croix. Il faut que Bethléem mène au calvaire. Et là, sur cette croix, vous avez la raison d'être. Il est devenu homme afin d'être le répondant, d'envahir votre place et de répondre pour vous, de tout régler, de tout régler. Dieu vous donne ça. Et de nous remettre en règle avec Dieu si nous voulons bien accepter ce qu'il fait. Donc, j'ai dit que le décalage incroyable entre Dieu et le bébé, c'est parce que tu ne peux pas sauver un homme qui se noie sans vous mouiller. Il y avait un jour deux présidents qui marchaient le long d'un endroit qui longeait un lac. Deux présidents de grands pays, des hommes prestigieux, exaltés, qui passaient une semaine ensemble autour des sujets qui concernaient leurs deux pays. Et là, ce jour-là, ils marchaient à côté de ce lac. Ils avaient beaucoup en commun, ces deux présidents, assez jeunes les deux. Ils avaient quelques intérêts en commun. Les deux étaient bons nageurs, semble-t-il. Les agents de services secrets étaient loin derrière, pour permettre la conversation privée. Et subitement, ces deux présidents entendent un cri. Et regardant dans la direction de ce cri, voient quelqu'un qui se noie dans le lac. Un des deux hésite momentanément. C'est fou. Combien de pensées peuvent vous traverser en une seconde? Et en un court moment, il pense, mais je ne peux pas sauter dans le lac, dans mes vêtements. Je suis président d'un tel pays. Comment puis-je il pouvait se voir revenant de l'eau, tout mouillé comme un rat, mouillé, devant les agents, devant les journalistes qui étaient dans le coin, devant tout le monde. En un moment, cette pensée traverse son esprit et aussi cette pensée, les agents, ils doivent voir, ils sauteront dans le lac. L'autre président n'a pas eu cette pensée du tout. Il n'a pas hésité, même une fraction du seconde. Dès qu'il a vu, il a commencé à courir. Je ne sais pas comment il a pu enlever les chaussures comme ça en courant, mais il saute dans le lac. Il a sauvé la personne et tout mouillé, il revient sur la plage. Maintenant, dites-moi, où est la vraie gloire? Chez le premier ou chez le deuxième? Où est la gloire? Chez celui qui ne peut pas s'abaisser jusqu'au point où de se mouiller? Ou chez celui qui est tellement plein d'amour et de soucis qu'il est prêt à se rendre un peu ridicule afin de sauver? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des religions qui disent que non, Dieu ne peut pas se faire homme et Dieu ne peut pas mourir sur une croix parce qu'il est Dieu. Mais l'Évangile vous dit justement c'est le contraire. Dieu montre sa gloire divine justement dans la distance qu'il est prêt à traverser afin de nous sauver. C'est pour cela que nous lisons dans le dernier passage que vous avez dans la dernière page, et là je vais... Christ Jésus, lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Le dernier point. Nous avons parlé de qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui s'est passé en apparence, pourquoi le décalage entre les deux. Et maintenant, s'il y a une telle contradiction entre l'apparence et la réalité, comment est-ce que nous pouvons savoir quelle était la vérité ce jour-là? Et comment est-ce que vous pouvez savoir que Dieu s'est fait homme pour vous? Heureusement, Dieu ne nous laisse pas pour nous débrouiller, pour essayer de découvrir ces choses pour nous-mêmes. Dieu est son propre interprète. Et il sait que laisser à nos capacités de raisonnement, nous serions passés juste à côté de tout ça. Ah, c'est un bébé. C'est qu'un bébé. Parce que mes yeux me le disent. Parce que ma raison me le dit. Mais ceux qui ne sont pas au courant peuvent souvent se tromper. Tu viens à la plage à La Ciotat, tu arrives sur cette place où il y a, je pense qu'il y a un terrain de boules à gauche. Il y a un passage goudronné surélevé à droite avec des magasins, avec des petits restos. Il y a la plage. Et vous arrivez, vous vous inclinez sur la rampe et vous voyez un couple avec un bébé. Oh, je dirais à peu près 1 an et demi. Et on l'a vu plusieurs fois. Cet enfant va peut-être prendre ses premiers pas. Papa le prend. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. Il tombe. Il le reprend. Il essaie, il prend presque un pas, il tombe encore. Le sable est très bon pour ça. Hein? Si l'enfant arrive à un certain stade, vous le prenez 2 ou 3 heures au sable, Il a confiance qu'il ne va pas se faire mal et il essaie vraiment. Nous avons une famille dans cette église qui, leur enfant a pris ses premiers pas comme ça. Mais vous regardez, cet enfant est un peu plus âgé que la plupart des enfants qui commencent à marcher, mais pas beaucoup. Et vous voyez que enfin, ah voilà, 2, 3, 4, 5, 6, ah! Et les parents sont ravis, comme tous parents. Mais un peu plus que ravis, ils commencent à s'entrelacer, à pleurer, mais à pleurer, à sangloter. Vous utilisez vos yeux, votre oui et votre raison, et vous dites, c'est un bébé qui marche. Mais vous entendez, vous ne l'avez pas remarqué, il y a des caméras et des journalistes à côté, à une dizaine de mètres. Et vous entendez, professeur, vous êtes médecin, généticien à la Timone, et qu'est-ce que nous venons de voir? Et il dit, parce qu'il est au courant, pas vous, mais il est au courant. Il dit, vous venez de voir un premier mondial. Vous venez de voir, moi je dirais, un miracle. Car ce bébé était paralysé avec une maladie génétique et il ne devait jamais marcher. Mais nous avons trouvé un traitement. Et vous entendez le reste. Et maintenant, parce que ceux qui sont au courant vous informent, vous interprétez cet événement de manière complètement différente. N'est-ce pas? Votre raison n'aurait pas pu vous le dire. Vos observations empiriques, impossible de deviner ça. Il fallait quelqu'un qui était au courant. Les bergers, ayant vu cet enfant, n'auraient jamais compris. C'est quelque chose de transcendant, chers amis. Dieu a agi dans l'histoire humaine. Pour que nous le sachions, il faut que ceux qui sont au courant, en l'occurrence, c'est les anges, viennent nous dire, vous allez voir un bébé qui est comme ça, mais je vous dis, c'est parce que vous allez penser. Ensuite, c'est les bergers qui vont vers Marie et Joseph. Marie et Joseph n'ont pas droit à un ange ce jour-là. Moi non plus, je n'ai jamais rencontré un ange. Comment est-ce que j'ai été informé? Pourquoi est-ce que moi je crois de tout cœur que Dieu s'est fait homme, qu'il a envahi mon humanité, qu'il a répondu pour moi? Je n'ai plus rien à répondre à Dieu. Il m'accepte, il m'embrasse, il m'a pris parce que je suis tourné vers lui dans cette foi qui accepte son don, son sauveur. Comment est-ce que je peux le savoir? Je n'ai pas eu d'ange. Mais Marie et Joseph et les autres autour non plus. Ils n'ont eu que les bergers. Vous voyez que nous avons besoin de quelqu'un qui est au courant. Et Dieu a entouré cet événement de prophéties, de détails historiques, et aussi de la vie de Jésus dans l'évangile que vous pouvez lire. C'est là. Et vous pouvez voir que il n'y a aucun homme qui est comme ça. Il n'y a jamais une vie, un enseignement, des miracles, une vie, une résurrection comme cela dans le monde. Et là où il touche une vie, pas la religion, même pas une religion qui s'appelle chrétienne, parce qu'il y a des religions qui s'appellent chrétiennes et qui ne le sont pas, mais là où le Christ lui-même vient et touche une vie, là où quelqu'un apprend et croit dans cette venue, dans ce don, dans cette offre d'être sauveur, la vie est changée. Et il y a une immense joie. Maintenant, de dehors, il est impossible de le savoir, de le vérifier. C'est une chose qu'on ne peut connaître que de dedans. C'est comme le célibataire qui n'a jamais, qui a toujours vécu seul. Peut-il comprendre les joies d'un mariage heureux? Il peut avoir quelques idées théoriques, Mais c'est seulement de dedans qu'on peut véritablement comprendre. Et je finis ce matin en disant simplement que ce message de Noël, selon la Bible, pas moi, mais selon la Bible, est en fait un appel de Dieu, un appel d'amour. Du Dieu qui a envoyé le Fils vers nous, il vous est né un sauveur. Et l'appel, c'est de le recevoir, lui, de le suivre, d'accepter son œuvre, d'accepter cette grâce et ce pardon, cette réconciliation, cette vie qui devient une vie aimée par Dieu, vécue avec Dieu. Vous n'allez pas devenir un fanatique. C'est pas ça le christianisme. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre job de garagiste. C'est pas ça. Vous n'avez pas besoin de devenir clergé. Vous pouvez marcher dans la vie de tous les jours, heureux sous le sourire de la faveur de Dieu, parce que vous avez accepté le Sauveur. Et si vous le faites, vous serez surpris par la joie. Nous allons chanter 96. Écoutez le chant des anges. Écoutez le chant des anges. 96.